19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Vous le savez, c'est toujours un plaisir de se retrouver dans les informés. Les informés, vous le savez, durant une heure. Eh bien, on analyse, on commente et on décrypte l'actualité. Ici même, durant une heure jusqu'à 20h sur Beurre FM. Et ce soir, au menu, bien, donc, qu'est-ce que je vous propose? Plusieurs choses à la fois. Aziz Henni, que je ne présente même plus, qui sera notre invité à 19h dans une poignée de minutes, qui viendra nous parler, vous savez, de cette vague de contamination Omicron qui a un impact sur le monde du travail et l'économie. On tentera de comprendre, évidemment, puisqu'il fait partie de la membre de direction du MEDEF. Ensuite, après, vous le savez, c'est deux points de vue, deux regards, deux, comment dirais-je, influenceurs, débatteurs qui viendront confronter leur point de vue. Jimmy, qui est syndicaliste CGT, qui viendra confronter son point de vue avec celui d'un chercheur Jean-Claude Félicicaya, et bien deux regards différents sur trois sujets qui ont retenu notre attention. Aujourd'hui, vous le savez, plus que jamais, et même vous d'ailleurs, au 01 53 48 3000, vous pouvez vous aussi venir commenter l'actualité, et vous êtes d'ailleurs prioritaire. Commenter, quand je dis commenter l'actualité, c'est-à-dire au 01 53 48 3000. Les trois sujets qui ont retenu notre attention, et bien c'est cette polémique concernant l'installation d'un drapeau européen sous l'Arc de Triomphe. Et bien, vous savez, et bien, les opposants ont continué d'alimenter la polémique. On en parlera. Omicron, que faut-il faire finalement? C'est la question que je pose, moi, vraiment. Face à cette contagion, face à cette contamination, face à cet embrasement, que faut-il faire? Chacun de nous, chacun d'entre nous. Et enfin, télétravail, est-ce la bonne solution? Parce que c'est aussi un véritable casse-tête. 01 53 48 3000, aussi, je vous attends, donc tout à l'heure. C'est parti, c'est ce qui vous attend comme menu dans les informés. Vous le savez, les informés, c'est plus que jamais en toute liberté d'expression. C'est
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Eh bien, c'est parti pour l'invité du jour dans les informés.
Les informés, l'interview.
Avec Aziz Henni. Bonsoir Aziz Henni, qu'on ne présente même plus d'ailleurs, qu'on connaît ici même sur l'antenne de Beurre FM, dans les informés. Bonsoir Aziz Henni.
Bonsoir à toutes et à tous. Je commencerai par vous souhaiter à vous, Adil, et à tous vos auditeurs et à toute l'équipe de Beurre FM, mes meilleurs vœux pour cette année, bien entendu, avec un pilier central, celui de la santé. Je vous la souhaite forte. Et au rendez-vous à toutes et à tous et pour tous vos proches.
Eh bien, merci, on vous retourne à vous, à nous aussi d'ailleurs. Bonne santé et bonne année. Entrepreneur, investisseur, mais vous êtes aussi également, il me semble, président d'une commission, mais surtout membre de la direction du MEDEF. C'est bien cela, Aziz Henni, hein?
Tout à fait, c'est un engagement syndical que j'ai depuis quelques années, aux côtés de mes activités professionnelles d'entrepreneur et d'investisseur.
Face à la vague, justement, vous êtes notre invité, face à la vague de contamination Omicron. Et j'ai envie de comprendre, parce que beaucoup sont comme nous d'ailleurs, dans leur quotidien, obligés aujourd'hui et contraints d'aller faire du télétravail. Télétravail 3-4 jours par semaine, selon évidemment les employeurs. Aujourd'hui, dites-moi, monsieur Aziz Henni, est-ce que vraiment il y a un véritable impact quand on parle de ce virus Omicron, de ces contaminations? Est-ce qu'il y a un impact dans le monde aujourd'hui réel du travail et sur l'économie, Aziz Henni?
Je crois, vous savez, sur cette histoire de télétravail, ce qui est important, c'est que d'abord de se dire que toutes les entreprises ne se ressemblent pas. Il y a les grands, il y a les moyennes, il y a les petites, il y a les secteurs d'activité, certains postes qui peuvent être télétravaillables, d'autres qui ne le peuvent pas. Moi, je crois surtout que c'est aux entreprises, dans le dialogue social, avec les collaborateurs, en fonction de leur taille, leur spécificité, les besoins de production, etc., de mettre en place ce télétravail. Bien évidemment, dans le cadre du respect de la loi et la dernière directive qui a été donnée, c'est d'essayer de mettre en place 3-4 jours de télétravail. Mais je crois que vraiment, c'est dans le dialogue dans les entreprises, en fonction de toutes ces spécificités, qu'il faut le faire.
Qu'il faut le faire en même temps, votre collègue, monsieur Dominique Carlache, qui lui est vice-président et porte-parole du MEDEF, que vous connaissez, il dit la chose suivante, cette déclaration chez nos confrères à France Inter. Et j'aimerais avoir votre point de vue. Il dit, il y a un sentiment d'injustice entre col blanc et col bleu au sein d'une même entreprise.
C'est vrai que Dominique a parfaitement raison. Si vous voulez, il y a le sentiment qu'il y a des postes télétravaillables et ceux qui ne le sont pas. Donc forcément, quand vous êtes, par exemple, sur une chaîne de montage, que vous êtes couvreur, que vous êtes plombier, votre travail est par définition difficilement télétravaillable, alors que pour des postes de technicien, de col blanc, pour reprendre l'expression de Dominique, oui, il peut y avoir un sentiment d'injustice. Il y a aussi, j'irai plus loin, il y a ce sentiment aussi pour ceux à qui on l'imposerait, parce que on ne peut pas, à mon avis, d'un point de vue psychologique, faire tout télétravail.
Oui.
On l'a vu pendant le dernier confinement, les gens, excusez-moi de l'expression, pètent les plombs à rester à la maison du lundi au vendredi, à travailler derrière leur ordinateur. Donc tout ça doit nécessiter une discussion assez large au sein même de l'entreprise pour savoir ce qui est bon à la fois pour le collaborateur, sa santé psychologique, son besoin de lien social, parce que le travail, c'est aussi l'endroit où on va. Il y a les collègues, il y a tout ce lien social qu'on peut avoir au sein de l'entreprise, et bien sûr les besoins de production.
Mais justement, vous siégez à la direction du MEDEF. Qu'est-ce que vous dites? Comment les entreprises aujourd'hui doivent s'adapter à ces nouvelles règles? Vous l'avez dit vous-même là, à l'instant, c'est compliqué de faire du télétravail du lundi au vendredi. Comment les entreprises doivent réfléchir et s'adapter justement à cette règle que nous impose le gouvernement jusqu'à fin janvier?
Justement, d'abord, je regrette que le gouvernement impose, ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode aurait été de laisser la responsabilité aux entreprises, aux syndicats patronaux, aux syndicats de salariés, de discuter, de dialoguer, de faire du dialogue social et de trouver la bonne option en fonction de la taille des entreprises. On n'organise pas le travail de la même manière dans une entreprise, la petite TPE près de chez vous qui a moins de 10 salariés, comme on peut l'organiser dans une très très grande entreprise classé au 440 ou au SB 120. Ce n'est pas les mêmes approches managériales, ce n'est pas le même type d'organisation.
Oui.
Donc, il aurait fallu laisser les gens s'organiser. Le problème, c'est qu'on a peu de marge de liberté. C'est vrai qu'on est dans un contexte sanitaire dont il faut tenir compte, mais ce contexte sanitaire doit aussi, l'organisation du travail doit s'adapter à cette organisation sanitaire.
Alors, justement, cette organisation du travail, Aziz Séné, vous le savez, elle commence par, juste après le jour de l'an, avec cette... On parle aujourd'hui de beaucoup d'absentéisme en cette rentrée de janvier. Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que c'est normal? Dans les entreprises, je parle. Il y a énormément d'absentéisme, à ton noter.
Oui, il y a un absentéisme qui se développe, mais il se développe en même temps. Il y a une vague Omicron. On est au niveau européen frappé par cette vague avec un virus extrêmement contagieux. Effectivement, ça se ressent dans l'organisation des entreprises. On parle beaucoup de l'absentéisme des salariés. Je peux vous dire que côté chef d'entreprise, il y en a un certain nombre aussi qui ont été touchés par le virus et malheureusement qui ont été out, comme on dirait au foot, qui ont été out en dehors de leur entreprise, en dehors de toute activité professionnelle pendant un petit moment, parce que arrêtés et freinés par cette maladie. Mmh. Donc on est tous égaux face à ce virus. Donc oui, il y a de l'absentéisme. Malheureusement, on essaye de faire comme on peut dans les entreprises, en palliant, en essayant de trouver des remplaçants parfois, de l'intérim, ou parfois en reportant des commandes aussi, en expliquant aux clients que malheureusement... le délai va être un petit peu plus long. Vous avez sûrement dû le remarquer dans les administrations où vous allez, etc. Il y a un certain nombre de délais qui sont un petit peu rallongés. Bah, c'est comme ça. On fait au mieux.
Le télétravail est installé déjà, d'ores et déjà, dans les esprits. Qu'est-ce que vous dites pour les patrons qui sont opposés justement au télétravail? Et qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que télétravail aujourd'hui, il y a une véritable... Est-ce qu'il y a des résultats de production, de productivity dictés, Aziz Séné?
Vous savez, moi je suis de l'école qui pense que plus un collaborateur se sent bien dans son poste de travail, plus il va être productif et plus ça va être intéressant à la fois pour lui dans le cadre de son épanouissement personnel, mais aussi ça va être très intéressant pour la productivité au niveau de l'entreprise et donc sa rentabilité. Donc la qualité de vie au travail, c'est un sujet qui est au cœur de ma réflexion et au cœur de mon combat. Ce que je dis, c'est que ce qu'il faut faire, ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est... travailler sur le dialogue social. De quoi, vous, collaborateurs, avez-vous besoin? Comment souhaitez-vous qu'on organise votre travail? Parce que nous, entreprises, voilà nos paramètres, voilà nos contraintes, voilà nos obligations. Et d'essayer de trouver un terrain d'entente pour que l'entreprise s'y retrouve en termes de production et le collaborateur soit heureux dans le périmètre qui lui est accordé pour pouvoir travailler. ça peut être une journée de télétravail, ça peut être 5 jours de télétravail.
Ouais.
Si c'est l'entreprise qui le décide et que ça le permet, c'est possible dans l'entreprise et que le collaborateur...
Est-ce qu'on n'est pas en train de généraliser, évidemment, le télétravail? Est-ce que le télétravail ne va pas devenir, à terme, dans quelques mois, dans les années à venir, quelque chose qui va rentrer, finalement, dans le système, quand on est aujourd'hui salarié dans une boîte en France?
Je pense que le télétravail commence à trouver sa part. Je ne crois pas qu'il y aurait des postes où ça va se généraliser, où il n'y aura plus de bureaux, où on n'ira plus. Je n'y crois pas du tout. Je ne crois pas. L'homme, le travail est un lien social. L'endroit où on se déplace, où on voit des collègues, ce lien social est quelque chose d'extrêmement intéressant et extrêmement important aussi, comme je le disais tout à l'heure, pour l'équilibre psychologique, à la fois pour le chef d'entreprise et pour ses collaborateurs. Ce que je pense, c'est qu'il va y avoir un rééquilibrage entre l'ancien modèle où c'était les 35 heures sur place et puis un nouveau modèle qui peut-être sera un peu plus équilibré, un peu plus adapté, ouais. Encore une fois, en fonction de la taille des entreprises et des secteurs d'activité.
Aziz Seni, comment, vous savez, dans les quartiers populaires, il y a énormément d'entrepreneurs, on est d'accord. Ces entrepreneurs, dans quel état d'esprit ils sont aujourd'hui ?
Alors, en France, vous avez raison, il y a 1514 quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ça représente à peu près 50 000 entreprises TPE, PME, ETI.
Oui.
Ça représente à peu près 200 000 emplois aujourd'hui.
C'est énorme.
Directement, en emploi direct, en équivalent temps plein.
Oui.
Ce qui est intéressant, c'est que les entreprises qui sont situées sur ces territoires, finalement, vivent cette crise à peu près comme les autres. Ni mieux, ni moins bien. Elles sont confrontées au virus, elles ont des difficultés à recruter, on en a beaucoup entendu parler parce que y avait une problématique qui a été très médiatisée y a avant les fêtes, c'est la problématique de ces entreprises qui ont du mal à recruter sur certains postes. Les entreprises de ces quartiers populaires sont aussi confrontées à cela. Elles sont confrontées au télétravail, elles sont confrontées à toutes les problématiques de société et d'organisation. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir finalement, puisque c'est peut-être ce qui est sous-jacent dans votre question, c'est que finalement, une entreprise installée dans une QPV, c'est une entreprise comme une autre. Elle vit les mêmes difficultés en ce moment.
Est-ce qu'on peut regretter que le gouvernement n'intervienne pas suffisamment pour accompagner financièrement justement ces entreprises en difficulté face à ce virus, face au Covid qui aujourd'hui a fragilisé, disons-le clairement, les petites entreprises et les entrepreneurs?
Écoutez, moi, moi, j'ai un compte Twitter, je suis sur Twitter, et cet après-midi, je me félicitais quand même. On a le gouvernement qui décide de rallonger les fameux PGE, les prêts garantis par l'État, sur une période de 10 ans, avec un décalage possible du premier remboursement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On a une possibilité pour certains secteurs, d'être exonéré de charges jusqu'à 65%, ça c'est une bonne nouvelle aussi, ça va aider les entreprises les plus fragiles. Donc non, je pense que l'État a quand même fait énormément sur cette période. L'État ne peut pas tout, avait dit je ne sais plus qui, et effectivement l'État ne peut pas tout, mais je pense qu'on a fait le maximum qui pouvait être pour aider les entreprises, en tout cas moi en tant qu'entrepreneur, face à ce qui a été mis en place, je suis assez satisfait et mes collègues le sont aussi.
Dernière question. Vous savez, face à une polémique qui avait pris de l'ampleur, le gouvernement a renoncé finalement d'instaurer le pass sanitaire, le pass vaccinal dans les entreprises. Est-ce que selon vous, vous qui êtes membre de la direction du MEDEF, est-ce que c'était une bonne chose, Aziz Seni?
Écoutez, on fait peser tellement de choses sur l'entreprise, on va devenir des policiers à l'entrée chaque matin, demander, mais moi j'ai
faire
pas
le gendarme, oui.
Je ne veux pas savoir la situation sanitaire de mes collaborateurs. Je ne veux pas m'immiscer dans quelque chose qui ne me regarde pas. Est-ce qu'ils sont vaccinés? Est-ce qu'ils ont atteint de telles maladies ou pas? Ça ne me regarde pas. Oui. À la limite, ça regarde la médecine du travail. Ce n'est pas à moi de contrôler le pass sanitaire de mes collaborateurs le matin quand ils arrivent.
Oui.
Donc, non.
Oui.
Heureusement que nous n'avons pas eu ça en plus à gérer. Non.
Qu'est-ce que vous voulez dire à celles et ceux qui vous écoutent justement? Parce qu'ils sont nombreux, les cadres sup, les entrepreneurs, les artisans qui suivent régulièrement les informés sur BFM. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire comme petit message, Aziz Seni?
Moi, je leur tire mon chapeau. On ne parle pas assez d'eux dans les médias, un petit peu avec vous, Adil. Mais globalement, on n'a pas tiré le chapeau à toutes ces entreprises, à tous ces entrepreneurs qui n'ont pas démérité en cette période de crise. C'est grâce à eux qu'on a pu transporter des marchandises, c'est grâce à eux qu'on a pu distribuer de la marchandise,
exact.
C'est grâce à eux qu'on a pu être soigné, que les médicaments aient pu être transportés, etc. Les salles nettoyées, le nettoyage a été un sujet. Donc moi, je leur tire mon chapeau, et je leur dis vraiment bravo. Vous êtes les héros, aussi les héros, aux côtés des soignants, les héros de cette période.
Aziz Seni, merci infiniment. Je le rappelle à nos auditeurs, vous êtes connu, bien sûr, engagé aussi dans les questions des quartiers populaires, entrepreneur, investisseur, aujourd'hui membre de la direction générale du MEDEF. Merci Aziz Seni d'avoir été avec nous.
Merci à vous, merci pour votre invitation.
À très bientôt, 19h15, nous allons marquer la première page pub. Et on se retrouve, tiens, avec Jean-Claude Tikaya. Jean-Claude Félix Tikaya, bonjour.
Bonjour.
Avec Jimmy Damidou, bonjour.
Bonjour.
Jean-Claude qui est chercheur et Jimmy qui est membre du syndicat et auteur.
Tout à fait.
La CGT.
Tout à fait.
Il faut que j'organise d'ailleurs un débat avec Aziz Seni, ça vous intéresserait?
Bonne idée, très bonne idée.
Très bonne idée. Il est encore là, Aziz Seni? Il est parti.
Il a soulevé avec,
là, il est parti.
Par rapport à ce qu'il a dit.
Par rapport, c'est vrai? Je vous laisserai réagir alors. Allez, à tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous. Les informés reviennent.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h, 20h, les informés avec Adil Farkan.
19h18, ici même dans les informés, vous le savez, avec le face-à-face, c'est parti.
Les informés. Le face-à-face.
Le face-à-face avec Jimmy, un tout nouveau parmi nous. Jimmy Damidou, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va et vous?
Qu'est-ce qui vous a frappé? Vous êtes syndicat CGT, auteur aussi également. Qu'est-ce qui vous a... Je vous ai vu parfois remuer la tête, secouer.
J'en reparlerai.
Il vous a, secoué, Aziz Seni, je vois.
Non, mais j'ai deux, trois éléments qu'il a mis en avant que je connais le syndicat. Non, j'aurais préféré qu'on parle des plus de salariés et de ces héros.
Ouais.
On a parlé de héros.
Ouais.
J'aurais préféré qu'on parle de la classe ouvrière et des couches populaires, du prolétariat en France qui lui est un véritable héros.
Bah écoutez,
on a soulevé les notions de rentabilité, dialogue social, productivité. Je pense que c'est des notions sur lesquelles il faudra revenir.
Ouais.
Et dans le cadre d'un débat aussi, s'il est d'accord.
Mais il est d'accord.
On a fait le lien entre les TPE, PME, quartiers populaires, c'est important.
Promis, il est d'accord. J'organiserai un face à face avec vous.
Vas-y.
Le débat est lancé?
Parti.
Les auditeurs sont témoins?
Tout à fait.
Bon, bah écoutez, c'est bon. c'est banco, on y va. Jean-Claude Fitzgerald, tout va bien? Vous avez de bonnes mines et tout ça?
Meilleurs vœux.
Tous mes vœux.
Meilleurs vœux que 2002. Rime avec jours heureux.
Exactement. Chercheur au sein de l'IPSE, allez messieurs, vous savez tout de suite, je veux lancer ce premier sujet qui a retenu notre attention. Je veux revenir là-dessus parce que c'était le week-end dernier, mais quand même, tout de même, après la polémique, vous savez, du drapeau européen sous l'Arc de Triomphe, eh bien, vous savez, c'est tout le monde qui lance des déclarations, tout le monde qui s'y met. Le drapeau européen a été enlevé aussitôt, vous savez, après, évidemment, le soulèvement de beaucoup de personnes, le retrait donc du drapeau. Aujourd'hui, la polémique revient. Est-ce qu'elle est justifiée ou pas du tout? Jean-Claude Fischikaya, dites-moi alors finalement sur le drapeau, est-ce qu'il devait être... est-ce que c'était sa place, l'Arc de Triomphe, ou pas du tout?
Oui,
ou est-ce qu'il fallait adosser le drapeau de la France avec?
Non, ce drapeau avait toute sa place. Faut se rappeler de l'histoire.
Je sens que vous allez lancer une polémique, vous aussi.
Non, pas du tout. Faut se rappeler.
Parce que l'Arc de Triomphe est rempli de sens.
Oui, mais justement.
Alors, on vous écoute.
Il avait toute sa place, justement, à l'Arc de Triomphe. Il faut revoir l'histoire de l'Europe et notamment de l'Union européenne, qui a été d'abord constituée pour que ça soit une union. Pour contraindre les pays européens et notamment allemands et français qu'ils se faisaient la guerre jusque-là.
Oui.
Il faut se rappeler aussi que l'Europe n'a pas pu être libérée seule,
se font toujours la guerre, vous avez raison. Ouais.
Oui, se font la guerre, mais c'est autrement. Là, c'était beaucoup plus fratricide. On va pas rappeler la Shoah et autres. Et non, parce que là, c'est vraiment un thème que moi, j'ai trouvé une polémique pitoyable.
Ah bon, pitoyable?
Oui, pitoyable.
Mais pathétique. Tout le monde dit, pourquoi vous dites ça? Parce que c'est Mélenchon à Valérie Pécresse. Tout le monde a réagi.
Malheureusement, Mélenchon qui a été là en deçà de son niveau intellectuel. Ouais. Et pareil pour Pécresse. Ils sont malheureusement.
Donc l'Arc de Triomphe, c'est pas ça, c'est sa place.
Ils sont malheureusement dans une vision pathétique politicienne. L'Union européenne, l'Europe n'aurait pas pu être libre sans les peuples d'Asie, sans les peuples du Pacifique, sans les peuples d'Océanie, sans les peuples d'Afrique, sans les peuples d'Amérique, le Canada, les USA, alors, sans l'Europe. Donc la France n'a pu être libre qu'avec une union donc des armées européennes mais mondiales. Ouais. Donc pourquoi l'Europe
est... Ça justifie pourquoi, pas avoir un drapeau blanc.
Pourquoi? Non, mais
c'est vrai, beaucoup se sont posé la question. À savoir pourquoi le drapeau bleu, blanc, rouge ne flottait pas aux côtés du drapeau européen. Et il a raison, Jimmy Damidou.
Mais il n'y a aucune antinomie. Il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas d'Union européenne sans la France. La France prend la présidence pendant 6 mois. C'était pour caractériser symboliquement pendant quelques jours le fait que la présidence
alors revienne. Alors attendez, Jimmy Damidou, justement le face à face, Jimmy Damidou.
En fait,
alors face à face, allons-y.
D'abord, je voudrais apporter une précision sur Emmanuel Macron.
Oui.
Pour moi, Emmanuel Macron, ce n'est pas un président.
Oui.
J'espère que vous le sachiez.
Bah, il est chef de l'État.
Président de tous les
Français. Laisse-moi développer.
Ah, vous avez le droit à la coupe.
C'est pas un président, c'est un banquier fanatique. C'est un banquier fanatique, Emmanuel Macron. Et le fait que sous l'Arc de Triomphe, il y ait le drapeau européen, matérialise le fait qu'on a affaire à un banquier fanatique.
Pas très sérieux.
Non, mais c'est son point de vue.
Non, mais laissez-moi développer, laissez-moi finir, vous allez comprendre.
Au nom de la loi,
en 2008,
président de tous les Français.
En 2008, il y a eu combinaison des deux drapeaux. En 2008, il y avait la combinaison des deux drapeaux. L'Union européenne.
Avec Sarkozy?
Plus le drapeau bleu, blanc.
C'est vrai que Sarkozy avait fait flotter les deux drapeaux.
Et là, il n'y avait pas la combinaison des deux. Ça veut bien dire que Emmanuel Macron, en tant que banquier fanatique, n'a pas, et dans un état d'esprit. En fait, si vous voulez, pour Emmanuel Macron, la France n'était pas un pays. C'est un portefeuille, en fait. Il prend de l'argent, il remet de l'argent. C'est comme quand vous allez dans un gabier, dans une banque. Vous retirez de l'argent, vous en remettez. Ben, pour Emmanuel Macron, la France, c'est ça, en fait. Tu vois? Donc, le fait qu'il y ait le drapeau européen, et uniquement le drapeau européen, matérialise.
Mais comme dit Jean-Claude Chicaya, il n'a pas tort. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, ce drapeau flottait pour représenter la présidence incarnée par la France. C'est aussi ça.
Oui.
Est-ce qu'on peut l'entendre?
Oui. Ah, mais la France, c'est pas bleu, blanc, rouge?
Oui. Aussi. Oui, aussi.
Bah, pourquoi pas le mettre?
Il n'y a pas d'Union européenne sans la France. La France n'a pas quitté l'européenne. La France est cofondatrice, Robert Schuman, Jean Monnet et autres, cofondatrice de l'idée européenne, du projet européen, en 1950. Et justement, revenons à l'histoire.
Et la victoire, ça a obligé. Et la victoire patriotique?
Mais la victoire patriotique, elle ne s'est pas faite seule. Ouais. Elle s'est faite avec toute l'Europe. Elle s'est faite avec des troupes venues d'Afrique, des troupes venues du Pacifique, des troupes venues du Canada, des troupes venues des USA, des troupes venues de plusieurs pays d'Asie. Donc c'est bien une guerre mondiale. Donc c'est la coalition de ces troupes et de ces États qui ont permis à la France, à l'Europe et au monde de...
Alors finalement, vous donnez d'accord à ceux qui ont fait reculer Emmanuel Macron de retirer le drapeau qui flottait?
Non, pas du tout.
Jours, il a été retiré.
Alors, moi, je ne sais pas si c'est, je ne sais
au
pas, si
jours,
oui. Je ne sais pas si c'est une reculade de sa part. En tout cas, si c'en est une, je la déplore. Je pense que, justement, il aurait dû rester plusieurs jours. Et cette semaine, si vous vous promenez dans Paris, les monuments les plus emblématiques de Paris, donc, européens, parce que nous sommes pas seulement français, nous avons aussi la supranationalité, sont de bleu, tout de bleu vêtu. Et je trouve ça, sur le plan symbolique,
il faudrait que tu développes sur ta notion de supranationalité, hein. Parce que ça me paraît bien incohérent, en fait. Ce qui me gêne un peu dans
le discours. Vous voyez,
vous. Ce qui me gêne un peu dans le discours, c'est que, oui, effectivement, il y a eu je pense qu'il faudra revenir sur des bases de classe, tout simplement. C'est quoi l'Union européenne? Moi, je suis contre l'Union européenne, je suis pour la sortie de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que les institutions de l'Union européenne, que ce soit la Commission européenne, etc., ne sont absolument pas des institutions démocratiques.
C'est l'intérêt du débat.
Ce ne sont absolument pas des institutions de façon, une notion de démocratie pour moi.
Si j'emmène des gens qui sont d'accord,
c'est une notion farfelue. Ouais. D'accord? Je ne reviendrai pas sur des bases philosophiques, sur ce que veut dire démocratie, etc. Bref, les institutions européennes donnent des ordres aux différents États qui n'ont pas d'autre choix que de transposer dans les lois nationales les directives européennes. Il y a un démocratique dans la construction européenne. C'est facile. Vous avez ce qu'on pourrait appeler un triumvirat. D'accord.
Ouais.
Commission européenne, Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne, qui dit à un moment, se réunit, ils disent, maintenant, messieurs, on va décider d'imposer une directive à la France, à l'Allemagne et aux différents États. et la directive sera la suivante. Une fois que la directive est validée, ils vont voir les États en question, on leur dit, bon, maintenant, vous allez mettre ça, vous allez transposer ça dans vos parlements, vous allez les voter, vous allez les enregistrer. Et s'ils ne le font pas, il y a des amendes qui tombent.
Je peux répondre?
Oui, bien sûr.
Dans quelle mesure?
C'est l'intérêt du face à face.
Et qu'elle est,
vous répondez quand vous voulez. Donc, vous pouvez même aussi, y compris.
C'est pas ma façon de faire et d'opérer. D'un drapeau mis de manière symbolique qui était là pour caractériser la présidence française du président Macron, qu'on soit pour ou contre, c'est le président de tous les Français, c'est le signe même de la Ve République et d'une démocratie. On peut dans quelques mois voter ou pour ou contre lui s'il est candidat. Le fait que ce drapeau soit là, ça vous donne, monsieur, l'occasion de dire pas de déploration, mais vous êtes contre l'Europe, donc c'est plutôt ça qui anime votre opposition à ce drapeau sous l'Arc de Triomphe. Donc je ne souscris pas à vos propos, mais ils n'appartiennent qu'à vous. Moi, je trouve que le fait que ce drapeau soit là, c'est la démocratie, c'est le débat est contradictoire.
Heureusement d'ailleurs.
Et contradictoire, mais on peut dire que symboliquement, ça n'a choqué que très peu, parce que le fait qu'il soit là de manière temporaire, le soldat inconnu qui a été donc agité par certains alors qu'il est inconnu, mais on le fait parler et il est mort, et donc on ne sait pas quelle idée il avait de l'Europe. Il faut savoir que quand l'Europe s'est construite, oui, sur le plan international et sur le plan national, oui, il y avait, oui, la colonisation, oui, et ça a permis aux députés colonisés de travailler sur deux choses, sur la décolonisation et sur la construction de l'Europe. C'est-à-dire que c'était pas antinomique, c'était ligne de crête, mais en tout cas, ce que ça a permis, c'est de prendre en compte le fait, sur le plan économique, hein, si vous rappelez, l'Union européenne, donc la construction pour la paix, donc le désarmement de l'Allemagne, le charbon et l'acier sur le plan du productivisme, même bien sûr s'il y avait une lutte des classes. Tout à l'heure, on a fait parler Aziz sans qu'il soit là. Moi, je souscris à ce qu'il a dit tout à l'heure. Il nommait pas seulement parce qu'il habite dans un quartier populaire et où il provient de ces quartiers. Il nommait pas du tout les classes, la lutte des classes ou la lutte populaire. Il dit juste que les héros, c'est aussi bien les chefs d'entreprise que celui qui est tout en bas, sans dire ça de manière péjorative, en bas de l'échelle de ces mêmes entreprises, et que les efforts communs, un débat, permettent à chacun, peu ou prou, d'être héroïque devant ce ramarré
de Macron. D'un mot, est-ce que cette reculade, on a une explication?
Cette reculade, si c'en est une, je le déplore, parce que c'est plutôt reculer devant une attitude populiste, réactionnaire. Qui malheureusement ne grandit pas ceux qui ont émis ce type d'attitude. Après, c'est aversé à la sagacité de chacun dans un débat démocratique. Moi, je trouve qu'il avait toute sa place pendant quelques jours sous l'Arc de Triomphe. Il n'y a pas d'Union européenne sans la France, qui est cofondatrice déterminante de cette union.
Je pense qu'il y a une confusion sur le
Jimmy Damidou.
Je pense que la plupart des Français ne disent pas que le drapeau européen n'a pas sa place. C'est le fait qu'il ne soit pas combiné avec le drapeau bleu, blanc, rouge. C'est ça qui pose problème.
Mais cette combinaison, je peux comprendre. Parce que dire, écoutez,
il faudrait que le drapeau comprendre. Européen se substitue au drapeau bleu, blanc, rouge.
Non, c'était pas.
Ah, vraiment, faites cohérent.
Je pense que c'est un mauvais procès fait au président de la République ou à ceux qui l'ont décidé, lui, en dernier lieu. Il n'oublie pas ce qu'il est, et il n'oublie pas ce que la France doit à l'Europe et vice versa.
Ceci dit, attendez, mon drapeau, il est plutôt auto rouge, hein, le mien. Je préfère le drapeau rouge que le drapeau bleu blanc.
Mais lequel, le drapeau le drapeau du parti?
Moi, je préfère la combinaison drapeau bleu blanc rouge plus drapeau rouge. Je trouve que c'est plus joli, ça. Et t'as parlé de lutte de classe.
Oui, c'est ce qu'il y a, notamment pour la.
Et moi, c'est cette combinaison-là.
C'est ce qu'il y a, notamment. Il y a même le drapeau des pays, notamment l'Australie, l'Angleterre, qui ont fait la victoire contre le nazisme.
Nous allons marquer une courte pause pub et on revient tout de suite avec le second sujet qui a secoué justement la journée. Vous le savez, c'est Omicron. Omicron, que faut-il faire? Est-ce que vous trouvez que le gouvernement agit normalement? Est-ce qu'il s'agit là d'une médiocrité, d'un amateurisme, comme le disent certains, comme le pensent certains? Où va-t-on? Est-ce qu'il y a une grille de lecture, une visibilité? C'est toutes les questions que je vous poserai, messieurs, et notamment que je ferai confronter face à deux regards différents, mais également aussi face à deux influenceurs qui, eux, vont confronter leur point de vue. 0153483000. Vous aussi, vous pouvez nous appeler pour réagir à ce Omicron. Moi, je vois des listes interminables. Je vois des queues interminables dans les tests, pour les tests PCR, dans les labos. À chaque fois, je marche. Je vous promets, je suis outré. Je vois et ça n'arrête jamais. Je n'ai jamais entendu de personnes contaminées dans mon entourage autant qu'il y a quelques mois. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous échappe? 0153483000, y compris vous, partout en France, on vous attend.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Informés, 19h34, mes chers amis, partout en France, jingle, les auditeurs.
01-53-48-3000. Les informés vous donnent la parole.
On vous attend au standard, tout de suite, maintenant, partout en France. Je voudrais vous entendre concernant Omicron, que faut-il faire face à ce variant qui est en train de nous envahir dans notre quotidien? Moi, je vous avoue qu'il n'y a pas une personne dans l'entourage qui me dit « je ne l'ai pas chopé ». C'est vrai, je vous jure. Il n'y en a pas un qui m'a dit ouais, « écoute, tous m'ont dit « je l'ai chopé, j'ai chopé un rhume, j'ai chopé, j'ai été testé positif, etc. » Bon, alors, le docteur Majid Soussine, je viens de recevoir un message de lui qui me dit que la fin est proche. Bon, moi je veux bien, la fin est proche, mais bon, est-ce qu'on a des mesures, est-ce qu'on a des analyses? Messieurs, je vais distribuer la parole. Omicron qui est en train de nous envahir, notamment, est-ce que vous trouvez d'abord que le gouvernement est à la hauteur de la gestion? Est-ce que vous trouvez que c'est amateurisme? Est-ce que vous trouvez que c'est médiocre? Est-ce que vous trouvez qu'on replonge dans cette gestion, dans le début du coronavirus? Ou est-ce que c'est plutôt bien ficelé, bien géré, bien amené, y compris évidemment avec la grille de lecture que chacun d'entre nous doit avoir, c'est-à-dire que c'est fluide, c'est lisible, etc. Et je voudrais entendre aussi les auditeurs au 01-53-48-3000. Jimmy Damidou.
Moi, je dirais que il y a deux solutions. Soit on a affaire à un virus. Alors, première solution, on a un virus effectivement qui serait très dangereux, etc., etc.
Oui.
Dans ce cas-là, on a un gouvernement qui ment et qui manipule la masse par en attisant la peur, en créant de la peur. Dans le deuxième cas, soit on a un virus qui est une maladie comme une autre. Hein, on aurait un gouvernement qui utiliserait cette maladie comme paravent pour assouvir ses velléités exploiteuses. Dans les deux cas, moi je vous dirais que de toute façon, dans les deux cas, on a affaire à un gouvernement d'incapables.
Ah bon?
Un gouvernement de menteurs.
D'incapables, moi je trouve.
Et un gouvernement qui. Arrêtons.
Ah oui,
qui nous représente, qui a cessé depuis, qui n'a jamais représenté l'intérêt général et un peuple. Vous savez très bien que le gouvernement Macron représente les riches et les plus riches.
Mmh. Je laisserai le temps aux auditeurs de savoir s'ils sont d'accord avec vous, 01-53-48-3000. Jean-Claude Félicicaya.
Oui, moi je sais
que vous n'êtes pas d'accord.
Moi, je m'autoriserai pas à donner mon point de vue sur le plan médical.
Pas sur le plan médical.
C'est un peu lié. Donc, c'est un peu. J'y vais quand même à tâtons. La seule chose qui revient en boomerang, c'est les 20 et 30 ans de gouvernement de gauche et de droite qui ont déshabillé le secteur public, notamment le secteur de la santé publique. Et on voit bien que quand l'Omicron ou d'autres variants ou le Covid tout simplement ou avant même le Covid, il y avait des manifestations, pas seulement du monde soignant, mais d'une bonne partie des corporations, que ce soit dans le public et dans le privé, pour qu'il y ait une vision de la question sociale qui soit mieux prise en compte. Et le fait que ça n'a pas été assez pris en compte, hein, d'ailleurs ils ont reçu une réponse assez méprisante, comme quoi il n'y avait pas d'argent magique, et après tout d'un coup il y avait l'argent qui est quand même l'argent l'agent public qui a demandé donc un autre déploiement, donc qui normalement devrait conduire de manière presque obligatoire, là encore, c'est presque comme un vaccin obligatoire, c'est le traitement de la question sociale, qu'on soit de gauche et de droite. Et là, la vision du pass vaccinal où tout le monde est peu ou prou d'accord, malgré le débat de ce soir, tout le monde, moi j'ai mes trois doses, chacun fait ce qu'il a envie de faire, j'ai déjà perdu des proches ou autres, j'aimerais que personne ne puisse en perdre. L'important c'est que comment on fait d'abord sur le plan médical, je laisse ça au plan médical, sur le plan politique, il faut absolument rendre plus robuste la santé publique, plus robuste.
Vous savez, ce qui
pourrait permettre donc à la nation d'être beaucoup plus sereine devant un Omicron, mais un Covid qui globalement n'est pas si maîtrisé parce que c'est nouveau et
puissant. Vous dites il faut rendre plus robuste, que vous savez il y a un édito qui est très intéressant que je vous invite à lire d'ailleurs à découvrir. C'est un édito de Majid Seyoussine qui intervient, qui est chroniqueur chez nous, un éditorialiste, hein, qui a écrit un truc justement sur l'hôpital, les hôpitaux, la fin des hôpitaux, égalité d'abord, vous verrez, vraiment, c'est assez
oui,
bien
ficelé.
Des hôpitaux.
Que ça soit le Covid ou l'Omicron ou d'autres crises qui, d'ailleurs, antérieures au
On vient de me dire que les urgences pédiatriques de Saint-Denis viennent de fermer.
Voilà,
Qu'est-ce que vous dites, ça fait un petit moment qu'on tire la sonnette d'alarme.
Qu'on a tiré la sonnette d'alarme sur le fait
que les urgences pédiatriques de Saint-Denis viennent de fermer, les amis. Hein. Je vous annonce ça dans le 93. C'est terrible.
Donc,
les auditeurs du 93, absolument. Les urgences, mais c'est une info qui vient de tomber par le docteur Madi Soussina. Les urgences pédiatriques de Saint-Denis viennent de fermer.
Ouais,
pas de personnel. Ça fait froid dans le dos.
Ouais, ça fait froid dans le dos.
Ça fait froid dans le pédiatrique.
Parce que
Mehdi, oui, s'il vous plaît, je voudrais ouvrir l'antenne. Pardon Jean-Claude et pardon Jimmy. Mehdi du département du 13. Bonjour Mehdi.
Bonsoir Adil.
Vous nous appelez de quelle ville?
Je vous appelle de Vitrolles.
Vitrolles, bonjour Vitrolles. Bonjour Mehdi, je vous écoute, bienvenue.
Donc merci Adil. Donc moi ce que je voulais dire c'est que on ne fait plus confiance à ce pseudo Macron, à ce pseudo banquier ou autre. Je supporte plus ce gouvernement. J'ai hâte que ça se termine. Je vous dis, on nous parle de Omicron tous les jours, Omicron. Je voulais juste vous poser une question, Adil.
Oui.
Où sont les morts qu'on voyait dans la rue, qu'on voyait mourir en marchant dans la rue en Chine lors de la première vague du coronavirus? Où sont tous ces morts-là? J'aimerais bien savoir. Donc si c'est pas de la peur qu'on veut nous inculquer avec ce Omicron 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000 par jour ou quoi que ce soit, je comprends plus rien. Moi j'aimerais savoir où sont les images.
Vous aussi vous êtes un des avocats. Eh ben il va vous répondre Jimmy Damidou. Il vous répond.
Une dernière chose s'il vous plaît.
Allez-y.
Une dernière chose, je parle, je suis vraiment outré, j'en peux plus moi de tout ça. J'ai mes parents de 80 ans qui sont à la maison. Je leur interdis d'allumer la télévision parce qu'autrement on va plus vivre.
Ouais.
Vous comprenez?
Oui, je comprends.
Là, moi, je vous dis sincèrement, il manquerait plus. Et souvenez-vous de ce que je suis en train de vous dire. De nous dire demain, vos animaux de compagnie, on va les vacciner, vos animaux de compagnie, parce que ça peut. Vous vous rendez compte le business que ça peut engendrer? C'est des petites doses fabriquées à des échelles exponentielles, vendues à des prix d'or.
Oui.
Pour toute une population, c'est un truc de fou. Vous écoutez même des radios concurrentes, c'est pas des radios concurrentes, genre Rire et Chanson ou autre, vous entendez le matin, alors le PDG de Pfizer, qu'est-ce qu'il en pense? Et vous entendez derrière le son des cling, 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 cling. C'est de l'humour, mais c'est pas de l'humour, ça, quand même.
Ouais.
C'est une réalité, Adil.
Eh ben, c'est aussi votre point de vue.
Honnête.
C'est aussi votre point
Moi,
de vue, Mehdi, c'est aussi le point de vue des auditeurs.
Beaucoup de personnes. Voilà, j'ai un bar tabac. Je vois des gens tous les jours dans mon bar.
Qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs dans votre bar? Qu'est-ce qu'ils disent les gens dans votre bar?
Eh ben exactement ce que je viens de vous dire.
Ah, exactement ce que vous venez de dire. Ah oui, effectivement.
C'est peut-être
ouais.
des discussions de comptoir, mais quand vous en avez 10, 20, 30, 40, 50...
Ils disent, il y en a marre de...
Voilà, tous les clients se plaignent. Tout le monde.
Mais c'est bien parce
monde,
que moi, j'aime bien dans les bars, Jean-Claude et Jimmy, parce que c'est là où on va chercher...
C'est vrai,
intéressant. C'est assez intéressant. Mehdi, merci pour votre appel. Franchement.
Je vous en prie, Adil. Je
à
vous
très
en
bientôt,
prie.
Surtout.
En espérant que tout se passe bien pour vous et
absolument.
Voilà.
également. Merci vous aussi du département du 13 Vitrolles. Jimmy, vous vouliez lui répondre, Jimmy Davidou.
Ouais, juste. Alors, je remercie Mehdi pour son intervention parce qu'il a soulevé un point important qui est la notion de peur. Ouais. Elle est revenue très souvent sur, depuis le début de la crise.
C'est vrai.
Et je pense que c'est le point nodal de compréhension. C'est que,
allons-y. En fait,
il y a ce que j'ai appelé une théâtralisation de la peur, de la mort et de la maladie. En fait, il y a trois éléments importants. La maladie, alors, qu'elle soit dangereuse ou pas, maladie, mort, et en fait, la mort qui est mise en exergue, qui est mise en avant, qui est théâtralisée, qui est mise en avant, mais d'une manière sans cesse répétée, tous les jours, du matin au soir, dans des, certains médias qui, pour moi, soit dit en passant, ne sont plus des médias, mais des agitations propagandes au service de l'exécutif. Bref, maladie, mort, et peur. Et ça, ce sont les trois notions.
C'est un vrai cocktail, ce que vous êtes en train de dire.
Non, mais je veux dire.
C'est un cocktail explosif, là, non?
Non, c'est une théâtralisation qui est mise en exergue pour créer de la peur. Parce que quand vous créez de la peur, vous contrôlez la masse, vous contrôlez la peur, vous contrôlez le peuple. Le peuple qui a peur, il est contrôlé. C'est ça qu'ils veulent. C'est pour ça que sur certains médias, tout bleu, là, vous voyez sur la, dans certaines télés, ils vous parlent que de ça, en fait, du matin au soir. Parce que ils savent que, de toute façon, les gens regardent la télé. Malheureusement, ils regardent la télé et ils regardent des infos, les informations qu'on leur envoie. Et une fois qu'ils sont, en fait, si vous voulez, je voudrais revenir sur un élément important. On a eu les gilets jaunes il y a quelques temps.
Oui.
D'accord?
Faut pas l'oublier.
Faut pas l'oublier. Il y a eu les gilets jaunes. C'était quoi, les gilets jaunes? Moi, j'y étais, gilet jaune. J'y étais dans la rue et plusieurs fois, j'ai senti je m'en souviens des gaz lacrymogènes et des LBD qui fusaient à droite à gauche. Mais maintenant, je vais vous dire une chose.
Dites-nous.
Depuis les gilets jaunes, il y a deux choses qui ont été révélées. La première chose, c'est l'existence de la lutte des classes.
Ouais.
Ça, on ne peut pas le nier. Je veux dire, ça fait 21 ans que je milite. Avant, ouais, quand vous parliez de la lutte des classes, c'était quelque chose de farfelu, quelque non, chose de.
Non, du, non.
Etc. Ah, si.
On écoutera votre point de vue. Mais attendez,
depuis le gilet jaune, c'est une réalité. Il y a des classes. Il y a la classe des plus riches que représente Macron et il y a la classe des plus pauvres, le prolétariat, la classe ouvrière, qui sont souvent dans les quartiers populaires, d'ailleurs, là d'où je viens. D'accord? Ça, ouais, c'est une réalité. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les gilets jaunes? C'est que, en fait, le rapport de force. Un des piliers de ce système capitaliste, c'est l'exploitation du travail par le capital. C'est-à-dire que le grand patronat, les GAFAM, les Amazon et tous ces mecs-là, ceux qui pourrissent justement la vie des TPE et des PME dans les quartiers populaires, d'ailleurs, soit dit en passant, eh bien, ces multinationales, ces monopoles capitalistes dirigent les gouvernements. Et lors des Gilets jaunes, le rapport de force, je fais juste deux secondes, le rapport de force a basculé du côté du travail. Et là, la crise sanitaire permet au gouvernement de reprendre la main en créant de la peur, reprendre le contrôle qu'il avait perdu depuis les gilets jaunes,
bon,
en fait.
Bah pourquoi pas? Enfin, je sais votre point de vue. Écoutez, 0153483000. D'autres auditeurs, comme Mehdi, on vous attend au standard. Jean-Claude Félix Tshikaya, vous avez dit non, je ne suis pas d'accord.
Oui.
Expliquez-nous.
Je ne suis pas d'accord. La question de la lutte des classes n'a jamais quitté le giron de la pensée politique
et depuis toujours.
J'ai pas dit qu'elle avait quitté. J'ai dit qu'elle était niée.
Non, niée, non. Pareil. C'est vrai qu'elle a été niée, notamment par un discours de Monsieur Sarkozy qui disait qu'on ne se rendait plus compte quand il y avait des grèves et autres. C'est vrai qu'il y a eu tout un essai, des essais et même plus que des essais, une organisation sémantique, phraséologique pour dire que les classes n'existaient pas. Certains à gauche et notamment une certaine vision du Parti socialiste, c'était faut juste voir. Au niveau des origines des uns et des autres, on voit bien, là tout à l'heure je parlais de la classe, pas de la classe mais de la question sociale qui est de toute façon là, et à chaque fois qu'on veut l'ignorer, elle revient en boomerang. Mais je ne pense pas qu'elle ait quitté vraiment sur le plan politique nos concitoyens. Là on voit bien que le Omicron, bon, sur le plan médical, là encore, je m'autorise pas à donner mon point de vue que j'ai pas sur le plan médical, mais que la réponse, où sont les insuffisances, elles sont antérieures à la venue du Covid. Donc là, le gouvernement fait un petit peu ce qu'il peut comme il peut, sauf que Sauf que, et là où je rejoindrai les critiques sur le président, c'est que le En Marche n'est pas une boîte à idées suffisante sur le plan des idées.
C'est donc, pas une boîte à idées, c'est une boîte à voleurs. Par République En Marche.
Donc,
et la droite à la clochette.
Donc, bien sûr, ça assèche la vision présidentielle.
Messieurs, dernier sujet, il est 19h47 et j'aimerais qu'on avance quand même avec ce troisième sujet qui a retenu notre attention aujourd'hui. Je parle du télétravail qui est un véritable casse-tête. Franchement, disons-le clairement, parce que aujourd'hui, pour les familles, pour les mères de famille notamment, qui sont exposées face à ce télétravail, une obligation avec ses limites, messieurs. Avec ses limites, parce que depuis le 3 janvier, eh bien, c'est 3-4 jours de télétravail par semaine. Sauf que pour les mères de famille, c'est un véritable casse-tête et sans parler d'une véritable galère. Jimmy Damidou.
Alors, télétravail, c'est un sujet effectivement très important. Pourquoi ? Parce que télétravail, oui, mais dans certaines conditions.
Il faut que confort, oui. Galère, oui aussi.
Disons que, en fait, il y a plusieurs éléments qui doivent être. Il y a certaines conditions matérielles et psychologiques qui doivent être réunies. Par exemple, lorsque vous faites du télétravail, il vous faut un ordinateur, il vous faut un portable, il vous faut un bureau, etc. Bon, bah, ça, on constate, à la CGT, on constate que dans certaines entreprises, c'est pas à la charge des patrons.
C'est pas à la charge des patrons. Alors, c'est à la charge de qui?
C'est souvent le salarié qui s'en occupe. Le patron
donne. Le salarié doit acheter son bureau et doit acheter son ordinateur. Terminé.
Sur les équipements, certaines entreprises, ils apportent l'ordinateur pour que le salarié puisse travailler, mais il n'y a pas seulement ça. Il faut un bureau, il faut un fauteuil, il faut une connexion internet, il faut un bureau, il faut un petit strapontin pour poser ses jambes. Je veux dire, quand vous êtes 7 heures derrière un ordinateur, vous
restez pas. Les conditions de travail.
Non, mais voilà, ce sont les conditions de travail. Exactement. Donc les équipements ergonomiques, ça doit être apporté par l'employeur. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les FPS. Les facteurs psychosociaux, c'est-à-dire tout ce qui est stress, angoisse, mal-être, etc. Ça, il y a une aggravation de ces risques et ces facteurs psychosociaux par le fait que la différence entre la vie professionnelle et la vie familiale, il n'y a plus de différence entre les deux, il n'y a plus de barrière. Ça aggrave ce facteur-là.
Et les mères de famille se plaignent.
Et souvent, les mères de famille se plaignent. Effectivement, parce que si tu es, par exemple, je ne sais pas, si tu es dans un T2 et que tu as les gamins qui courent partout, que tu n'as pas de bureau, que tu n'as pas de fauteuil et que tu bosses 12 heures par jour, ça ne peut pas aller. Sur le plan psychologique, ça ne peut pas aller. Alors, je voudrais revenir sur deux points quand même, parce que.
Et après, je donne la parole à Jean-Claude Fichet.
Alors, isolement psychologique, parce qu'effectivement, il n'y a plus de lien social. Il y a certaines personnes, il faut comprendre que certaines personnes, c'est important pour elles d'aller sur leur lieu de travail, de retrouver les collègues, discuter avec les collègues, créer du lien social. C'est un petit peu le seul endroit qu'ils ont pour créer du lien social. Donc là, ils se retrouvent isolés, donc isolement psychologique. Et c'est déjà pas mal.
Et c'est déjà pas mal. Jean-Claude Fichet.
Oui, sur le plan du temps de travail. Moi, je pense que c'est plus hybride que cela, comme le fait que certaines entreprises, pour la plupart, soient contraintes donc à mettre en place cette option hybride télétravail pendant un moment dans la semaine et présentiel, donc présence dans l'entreprise ou autre lieu de travail. C'est vrai qu'il faut que les conditions soient réunies, donc un matériel idoine, donc aussi une vie familiale qui le permet, que ça soit. Exactement. Le père, la mère, en tout cas, c'est vrai que les inégalités le démontrent. Cette charge des inégalités se porte en particulier sur les femmes globalement au niveau des charges sociales et économiques. Sauf qu'il y a aussi, là antérieurement à la crise Covid, beaucoup un certain nombre de salariés qui voulaient travailler avec le temps de travail, qui commençait à s'affirmer, qui commençait ici et là à être une demande. Sauf que là, elle est bousculée et accélérée par la crise sanitaire, et on voit bien qu'une bonne partie de nos concitoyens n'ont pas à l'intérieur de leur domicile un bureau, un temps domicile organisé, y compris par le reste de la famille, y compris les enfants. Donc on apprend un peu tout, et Aziz l'a très bien très bien explicité tout à l'heure. On apprend un peu et on essaye de faire au mieux. Mais c'est vrai que là encore, je le disais tout à l'heure, le Omicron a révélé, pas seulement le Omicron, mais le Covid a révélé, ou en tout cas a mis la lumière sur ce qui n'était pas des révélations, sur les inégalités sociales et économiques. Voilà, sauf que là, ça les a mis au grand jour pour ceux qui voulaient ou qui semblaient les ignorer.
Jimmy Damidou, générique de fin.
Ah, c'est Dalidou. Juste un truc.
Excusez-moi.
Sur le fait que il y a aussi une augmentation de la charge de travail lors du télétravail, et il y a aussi, il faut qu'on fasse, il faut intervenir sur la dérive patronale. Parce que en fait, on s'aperçoit aussi que il y a des droits,
le
droit à la déconnexion, etc., etc. Bon, ça, il faut vraiment que ce soit appliqué.
Le côté psychosocial.
C'est-à-dire même s'il est chez, même si le travail est chez lui, arrive à une certaine heure, on cesse de l'appeler, on cesse de lui envoyer des mails. Il faut le laisser tranquille.
Bien
et
sûr.
On constate qu'il y a des dérives au niveau du patronat qui ne lâche plus leurs salariés. Du coup,
qui étaient antérieurs aussi au Covid et qui là se sont accélérés. Il y a plusieurs anxiétés qui viennent se chevaucher. Il y a l'anxiété climatique, l'anxiété liée au Covid, l'anxiété liée au télétravail. Donc tout le monde est un petit peu à la recherche, mais pas seulement en France, mais dans le monde pour il y a les inégalités mondiales sont sous révélateurs. Donc c'est bien tout un monde qui doit se repenser.
Exactement, tout un monde à repenser. Merci à Jimmy Damidou, syndicaliste CGT, auteur. Merci, à très bientôt.
À bientôt.
Jean-Claude Félix-Sicaïa, chercheur au sein de l'IPSE. À très vite.
À très vite, à bientôt.
Merci à la réalisation à Yanis. Merci aux auditeurs au 01 53 48 3000. Je vous dis à demain, sans faute, 19h-20h pour les informer, pour un nouveau numéro. Et on lâche rien, vous le savez, plus que jamais. Excellente soirée.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.